Vous écoutez RTL.
Il est 18h. RTL Soir, Philippe Robuchon.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Après les frappes militaires, la diplomatie se met en marche. Depuis une heure, le Conseil de sécurité de l'ONU est réuni à New York à la demande des Russes. Ils veulent une condamnation des frappes visant des sites chimiques la nuit dernière en Syrie. Mission accomplie, dit de son côté Donald Trump. Dans un instant, nous irons aux États-Unis retrouver le correspondant de RTL, Philippe Corbet. On ira au ministère de la Défense à Paris où Florence Parly et le chef d'état-major ont donné des détails sur l'implication de l'aviation et de la marine française la nuit dernière. On ira évidemment à Moscou voir qu'en pense le Kremlin. Julien Fautra nous résumera les réactions politiques en France. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen condamnent le choix d'Emmanuel Macron. Et puis avec Isabelle Dat, on verra ce qui peut se passer maintenant si le processus de paix peut être relancé en Syrie. Dans ce journal également, manifestation tous azimuts cet après-midi en France, à Marseille, contre la politique du chef de l'État et du gouvernement. À Nantes, c'est en cours d'ailleurs, contre la répression à Notre-Dame-des-Landes. Et puis hommage à un grand cinéaste qui s'est éteint à l'âge de 86 ans, Milos Forman, Vol au-dessus d'un nid de coucou ou Amadeus, c'était lui. En sport, football, 33e journée de Ligue 1 depuis 17h. L'Olympique Lyonnais reçoit Amiens. Sur place pour RTL, Serge Peillot. Bonsoir Serge.
Bonsoir, la deuxième période va bientôt débuter. C'est l'Olympique Lyonnais qui mène 1-0 face à Amiens. Un but inscrit à la 30e minute par Mariano Diaz. Mariano Diaz qui a inscrit son 18e but en Ligue 1. 1-0 donc pour les Lyonnais face à Amiens.
Merci Serge Peillot. En Ligue 2, Reims a battu le Paris FC cet après-midi 3-0. En rugby, 24e journée de top 14. Toulon a battu Montpellier 32-17. Les courses, Quintet Plus à Vincennes cet après-midi. Combinaison gagnante, 9, 2, 5, 11 et 16. À 18h20, comme tous les samedis, on va retrouver Bernard Glass pour ses pronos du Quintet demain à Longchamp. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Philippe.
La tendance météo pour demain ?
Perturbée sur le nord-ouest avec encore pas mal de nuages et quelques averses. Et plus on ira vers l'est, plus le ciel sera lumineux, même bien ensoleillé l'après-midi. Les températures seront en hausse de 14 à 21 en général et jusqu'à 24 degrés près de la Méditerranée.
Merci Peggy. Prévision détaillée dans un gros quart d'heure.
RTL Soir.
Philippe Robuchon.
Une semaine après l'attaque chimique à Douma, près de Damas, une semaine après les images épouvantables d'enfants morts ou suffoquants, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni ont donc décidé de passer à l'action contre les régimes de Bachar el-Assad. Malgré les avertissements de Moscou, des missiles américains, français et britanniques ont visé la nuit dernière des bâtiments situés en Syrie, bâtiments abritant des centres d'études scientifiques ou de production d'armes chimiques. Les Occidentaux disent avoir atteint leur objectif, empêcher l'homme fort de Damas d'utiliser à nouveau cet arsenal chimique contre sa population. Bonsoir Philippe Corbet.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant permanent de RTL aux États-Unis. Vous êtes en direct de New York. Depuis 17h, le Conseil de sécurité de ces Nations Unies est réuni à la demande des Russes qui veulent une condamnation de ce qui s'est passé la nuit dernière. Donald Trump, lui, s'est déjà félicité du succès de l'opération.
Il tweet que la frappe a été parfaitement exécutée. Il remercie les alliés français et britanniques pour leur sagesse et la puissance de leur excellente armée. Le résultat n'aurait pu être meilleur. Et il conclut avec un point d'exclamation et cette formule « mission accomplie ». Elle rappelle la bannière déployée derrière George Bush le 1er mai 2003, quelques semaines après le début de la guerre en Irak. Même si les deux opérations sont de nature extrêmement différente, cette formule est assez maladroite.
Et donc Philippe, depuis une heure, les cinq membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont réunis. Les Russes veulent une condamnation. Ce qui s'est passé la nuit dernière en Syrie, disent-ils, c'est une agression.
Une agression contre un État souverain par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. L'ambassadeur russe vient donc de soumettre au Conseil de sécurité une résolution pour la condamner. Il accuse les trois pays occidentaux de néocolonialisme. Il dit que cette attaque est guidée davantage par la Constitution des États-Unis que par le droit international. Il conteste toujours le caractère chimique de l'attaque de la semaine dernière et ajoute que la rhétorique humanitaire ne sert qu'à justifier l'action en Syrie des trois pays occidentaux qu'il juge honteuse. L'ambassadrice américaine vient de lui répondre que ce n'est qu'une campagne de désinformation russe, que les États-Unis sont prêts, je cite, à dégainer à nouveau en cas de nouvelle attaque chimique. L'ambassadrice britannique puis l'ambassadeur français ont tenu à peu près le même discours. François Delattre insiste, la France n'a aucun doute sur la responsabilité d'Assad. Au fond, chaque pays joue une partition assez attendue. Les échanges sont moins violent que lors des quatre réunions précédentes à ce sujet cette semaine. Évidemment, la résolution russe ne sera pas adoptée par le Conseil puisque les trois pays qui ont mené les attaques l'année dernière disposent d'un droit de veto.
Philippe Corbet en direct des États-Unis. Merci. Pour la première fois depuis qu'il est président, Emmanuel Macron a donc lancé la France dans une opération militaire. Certes, il n'a pas engagé de troupes au sol. Les missiles français ont été largués ou envoyés par des avions de chasse partis de notre pays ou par des frégates basées en Méditerranée. Bonsoir Pierre-Julien.
Bonsoir Philippe.
Vous êtes en direct avec nous. Vous êtes au ministère de la Défense où Florence Parly, la ministre, ainsi que le chef d'état-major ont donné des détails tout à l'heure sur nos forces engagées la nuit dernière et sur les objectifs visés.
Oui, hein, Florence Parly a tenu tout d'abord avec le général, le chef d'état-major, le général Lecointre, a tout salué tous les militaires français, hommes et femmes, qui ont participé à cette opération. Le bilan a d'ailleurs été présenté cet après-midi au président de la République. Aucune perte à déplorer. Voilà aussi pourquoi, selon la ministre, la mission est un succès. Tous les objectifs ont été atteints. Ainsi, à Homs, les installations de production, de stockage chimique ont été considérablement amoindries. 3 missiles de croisière navale ont été tirés depuis une frégate française. 9 missiles Scalp lancés par 5 rafales ayant décollé de France. 7000 km, 5 ravitaillements et 10 heures de vol sans rencontrer d'opposition notoire. Les Russes ayant finalement désactivé leur système anti-aérien. Et ceci même si les Syriens ont affirmé avoir résisté. Le général Lecointre a mis les choses au point.
La défense solaire syrienne a effectivement bien fonctionné, à la différence d'ailleurs de l'armée de l'air syrienne, qui n'est pas du tout intervenue et qui est restée sur les bases, notamment où les Russes sont présents, ce qui leur assure une sorte de protection de facto. Ensuite, je suis admiratif des résultats de la défense solaire syrienne. Non, objectivement, les informations que nous avons sont que tous les missiles tirés par la France et sans doute par l'ensemble des alliés ont atteint leur cible. Et les informations que j'ai à ce stade me permettent de penser que l'efficacité de la défense solaire syrienne a été très faible, voire moins que cela.
Pour la ministre des Armées, ces opérations traduisent toute la détermination de la France et de ses alliés. Le temps est, a affirmé Florence Parly, à l'action diplomatique et humanitaire maintenant.
Merci Pierre-Julien, en direct du ministère de la Défense, donc à Paris. La hantise des Occidentaux, Pierre vient de le dire, dans cette opération, c'était évidemment qu'elle fasse des morts ou des civils, des morts ou des blessés, pardon. À ce titre, mission réussie là aussi, puisqu'aucun civil ou militaire n'a apparemment été tué. L'un des objectifs visés était le CERS, le Centre Syrien d'Études et de Recherches Scientifiques, situé à Damas. Les habitants de la capitale disent avoir vu plusieurs missiles le frapper. Écoutez le témoignage de Miassar. C'est un réfugié syrien qui vit en France, en banlieue parisienne. Il a pu joindre ce matin ses sœurs qui habitent tout près du lieu de l'attaque.
Midosor, ils habitent à Barza, au nord de Damas, à côté du centre de produits chimiques. Et il y en a une qui m'a dit « Damas, il tremble ». Elle était en train de presque pleurer avec ses deux garçons. Et il m'a dit, peut-être bientôt, on va descendre au sous-sol. Et il m'a envoyé une photo même. Il y a la fumée qui sort jusqu'à maintenant. Nous, on voulait terminer avec cette guerre. On voulait terminer avec ce criminel de guerre. Ce criminel, on appelle maintenant le Bachar, le chimique. On voulait une frappe massive qui le fait vraiment mettre à zéro. Cette frappe-là, elle va s'en sortir plus fort qu'avant. Elle va dire, voilà, regardez, les Français, les Américains, les Anglais nous ont attaqués. Je suis le meilleur. Elle va utiliser encore la même chose qu'au début qu'on l'attend depuis 50 ans. Voilà.
Miassar, un réfugié syrien qui vit en France, qui a pu joindre sa famille ce matin à Damas. Des propos qui étaient recueillis par Gauthier Delon-Bugard pour RTL. Dans la classe politique française maintenant, beaucoup de réactions évidemment toute la journée à cette action conjointe franco-américano-britannique. Bonsoir Julien Fautra.
Bonsoir.
La plupart de nos responsables, il faut le dire, soutiennent la décision d'Emmanuel Macron.
Oui, c'est le cas bien entendu pour les députés La République En Marche, le parti du président, mais aussi soutien à gauche. Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, déclare que les attaques chimiques répétées été imposé une réaction. Et à droite aussi, en attendant que Laurent Wauquiez s'exprime, Guillaume Pelletier, vice-président des Républicains, déclare faire confiance à Emmanuel Macron, tout comme le centriste et ancien ministre de la Défense, Hervé Morin.
Je pense qu'il fallait le faire. On a affaire à un boucher qui a utilisé les armes chimiques contre son propre peuple. Je crois que la France est dans son rôle pour très clairement porter ce coup de semonce.
En revanche, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, les critiques ont été très dures. La présidente du FN, Marine Le Pen, dès ce matin, et c'était sur RTL.
Aujourd'hui, chaque président veut sa petite guerre.
la même précipitation, les mêmes conséquences imprévisibles et potentiellement dramatiques de ces interventions.
Tandis qu'Éric Coquerel, pour les Insoumis, considère qu'Emmanuel Macron n'a pas respecté le droit international.
Quand vous décidez quelque chose en dehors du droit international, vous risquez un embrasement généralisé. Qu'est-ce que la France a gagné à suivre les États-Unis d'Amérique dans cette guerre ?
Enfin, petite mise en garde de François Hollande, frappe justifiée, mais insuffisante, dit l'ancien président de la République. Emmanuel Macron, lui, n'a pas répondu aux critiques. Il ne s'exprimera pas avant l'interview prévue demain soir sur l'Élysée.
Merci Julien Fautra du service politique de RTL. J'ajoute que demain, Édouard Philippe, le Premier ministre, recevra les présidents des deux assemblées, François de Rugy et Gérard Larcher, ainsi que les responsables des principaux groupes politiques. Un débat sans vote doit être organisé rapidement devant les assemblées. On a vu tout à l'heure qu'à l'ONU à New York, les Russes demandaient une condamnation de ces frappes militaires en Syrie. Et à Moscou, comment la classe politique, les médias, le peuple russe ont-ils réagi aujourd'hui ? Sur place pour RTL, la correspondance de Félix Grasso.
Vladimir Poutine a qualifié ces frappes d'actes d'agression contre un gouvernement souverain, raison pour laquelle le président russe a réclamé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour y présenter un projet de résolution condamnant ces frappes. De manière quasiment unanime, la classe politique a elle aussi dénoncé le mépris de Washington, Paris et Londres pour le droit international du fait de la violation de la souveraineté syrienne. Tout au long de la journée, la chaîne d'information russe en continu, Russia 24, a diffusé des images du ciel nocturne syrien zébré de traits de lumière, mais aussi des manifestations d'habitants de Damas dénonçant les frappes et donner la parole à quantité d'experts qui ont tenté de décrypter l'attitude des Occidentaux. Quant aux Moscovites, même si la situation globale les inquiète, ils avaient l'air plus déterminés à profiter des premiers rayons du soleil après un long hiver qu'à livrer leurs sentiments sur les événements de la nuit.
Félix Grasso à Moscou pour RTL. Bonsoir Isabelle Datt.
Bonsoir.
Vous nous avez rejoint dans ce studio, chef du service étranger de RTL. On a entendu toutes les réactions aux États-Unis, en France, à Moscou, réactions militaires, politiques. Une seule question ce soir. Après les missiles de la nuit dernière, le processus de paix en Syrie peut-il être relancé ?
Écoutez, dans cette première phase, la France a pris ses responsabilités. Elle a fait ce qu'elle a dit qu'elle ferait si la ligne rouge qu'elle avait fixée était franchie. C'est une riposte proportionnée, mesurée, qui limite les risques d'escalade internationale. Mais ce n'est évidemment pas une fin en soi. Emmanuel Macron a toujours dit que s'il se lançait dans une opération militaire, il fallait qu'elle s'inscrive dans une feuille de route diplomatique. Les négociations, que ce soit celles sous l'égide de l'ONU à Genève ou celles d'Astana menées par les Russes, les Iraniens et les Turcs sont au point mort. Malgré les frappes de cette nuit, le président a maintenu des contacts toute la semaine avec Poutine, avec Trump. Il parle à tous et veut tirer avantage de la position particulière de la France, y compris dans cette période un peu délicate, pour les rassembler dans une dynamique permettant de trouver une solution politique. Dans les prochaines semaines, Emmanuel Macron doit se rendre aux États-Unis, puis en Russie, et là, il devra faire œuvre de persuasion.
Merci Isabelle Datt. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur les conséquences des frappes militaires de la nuit dernière en Syrie, sujet que développera bien évidemment Emmanuel Macron demain soir lors de son interview télévisée. Il est 18h13 sur RTL. Dans un instant, la suite du journal avec toute une série de manifestations cet après-midi en France, à Marseille, contre la politique d'Emmanuel Macron, à Nantes, en soutien aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes.
RTL Soir,
Philippe Robuchon.
Plusieurs milliers de personnes ont défilé cet après-midi dans les rues de Marseille. À leur tête, le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône, mais aussi des responsables de la CGT, d'autres syndicats ainsi que des étudiants. Le défilé était baptisé Stop Macron. Hugo Hamelin, le correspondant de RTL dans la région.
Oui, c'est ça, stopper la marche en avant du gouvernement et afficher une unité à gauche entre partis politiques et organisations syndicales.
C'est une première en France depuis le début de ce mouvement social.
C'était l'objectif de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise.
Nous jetons toutes nos forces dans la bataille. Mais monsieur Macron aurait bien tort de se figurer qu'il suffit d'envoyer 2500 gardes mobiles à Notre-Dame-des-Landes et de jeter des bombes en Syrie pour que les gens oublient quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés dans ce pays.
Parmi les manifestants, des étudiants, des cheminots, des retraités et des profs comme Fabienne qui voient un fil conducteur entre les différents mouvements sociaux qui secouent actuellement le pays.
Bien sûr, la cohérence entre la ZAD, entre la réforme des universités, toutes les revendications qui sont là et la loi qui va restreindre les droits des migrants, qui va être vraisemblablement votée lundi malgré les dissensions. Le fil conducteur de tout ça, c'est un certain modèle de société ultralibérale et qu'on veut nous imposer.
À noter également la présence dans le carré tête de Philippe Poutou, l'ex-candidat du NPA à l'élection présidentielle.
Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. D'autres rassemblements cet après-midi à Montpellier, à Toulouse, essentiellement à l'appel des étudiants. À Nantes, deux autres manifestations, une contre les ordonnances Macron, une qui se tient toujours actuellement contre la répression à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où d'ailleurs des échauffourées ont continué toute la journée. Actuellement, l'ambiance est tendue dans les rues de Nantes, nous dit Nicolas Bobby sur place, mais sous contrôle, selon la police. La direction de la SNCF prévoit un trafic quasi normal demain dimanche. Le préavis de grève des syndicats s'achèvera à l'aube. Pas de perturbations a priori sur les TGV. Vous pourrez compter sur 9 TER sur 10, 2 intercités sur 3 et 9 transiliens sur 10. À l'international, trafic normal. Le prochain préavis est prévu mercredi et jeudi prochain. À Paris, gare de Lyon, ce matin, des cheminots grévistes sont une nouvelle fois allés au contact des usagers pour tenter de les convaincre que la réforme du gouvernement n'est pas bonne. Dialogue parfois compliqué, mais dialogue quand même. Reportage Quentin Vinet pour RTL.
Oui, sur le parvis de la gare, des dizaines de cheminots CGT et Sudrail font griller les merguez et distribuent des tracts.
Bonjour madame, un petit tract pour expliquer les conséquences de la réforme.
L'idée, dit Béranger Cernon, responsable CGTiste à Paris, c'est de bien expliquer aux voyageurs les raisons de la grève en ce week-end de vacances.
Ah voilà, nous, on comprend hein, que voilà, ils soient dans la galère quand ils n'ont plus de train et qu'ils galèrent. Ouais, il y a pas mal d'idées reçues avant le début de la grève. Pendant un mois, voilà, on nous faisait passer pour des nantis, pour des privilégiés. Et c'est pas ça, quoi.
Bonjour monsieur.
Alors, la discussion n'est pas toujours facile. Ce retraité, par exemple, ne veut même pas écouter les revendications.
C'est des gens, ils veulent rien changer. Bon, bah, ils changent pas, c'est bon.
Mais cette enseignante approuve la grève avant de monter dans son TGV.
J'ai de la chance parce que j'ai un train qui va en Suisse. Mais je suis d'accord avec les cheminots. On a un service public de qualité en France. Mais à travers le statut des cheminots, c'est le service public qui est attaqué.
En pleine bataille de l'opinion, Béranger Cernon, avec son gilet de la CGT, trouve que de plus en plus de voyageurs soutiennent les cheminots.
Malgré le fait qu'on soit rentré dans le dur de la grève, on continue à nous soutenir de plus en plus.
Au même moment, dans la gare, des gilets rouges non grévistes aiguillent les usagers vers les trains qui circulent.
Un reportage Gare de Lyon à Paris pour RTL, signé Quentin Vinet. À Nantes, une information qui n'a rien à voir avec les grèves et les manifs. La nuit dernière, on a volé le reliquaire, c'est-à-dire le coffret qui contenait le cœur d'Anne de Bretagne. Il a été volé au musée d'Aubray à Nantes, une pièce d'orfèvrerie exceptionnelle qui avait été réalisée au XVIe siècle. La maire de Nantes, Johanna Roland, exprime son indignation. Deux disparitions aujourd'hui au chapitre culture. D'abord en France, le chef d'orchestre Jean-Claude Malgoire. Il avait 77 ans, c'était un spécialiste de la musique baroque. Et puis dans le monde du cinéma, la mort de Milos Forman, 86 ans, sans doute l'un des plus grands réalisateurs de la fin du XXe siècle. Plusieurs de ses films sont tout simplement des chefs-d'œuvre, « Vol au-dessus d'un nid de coucou » ou encore Amadeus. Forman, dans ce film Amadeus de 1985, avait dépeint un Mozart virevoltant, jalousé par son ennemi Antonio Salieri. Sur RTL, Milos Forman était venu, il y a quelques années, expliquer pourquoi il avait été pris de passion pour Mozart. C'était lors d'un journal inattendu en 1989.
Au début, ce n'était pas vraiment Mozart ou sa musique qui m'a excité. C'était vraiment l'histoire de cette pièce. À cause de Mozart et Salieri, c'était encore plus excitant parce que toute la musique qui vient avec, toute la beauté de l'époque qui vient avec. Toute l'histoire est racontée par les yeux d'un vieillard fou qui raconte les choses de cette façon, comment il veut les voir. La base des histoires, c'est un conflit entre des hommes de génie et un de médiocrité. Pour dire la vérité, ça me faisait aimer Mozart encore plus.
La voix de Milos Forman sur RTL, il avait 86 ans. Milos Forman avait la double nationalité tchèque et américaine. On revient au sport et au foot en direct. La 33e journée de Ligue 1, Olympique Lyonnais, Amiens. Où en est-on, Serge Puyol?
Toujours un but à zéro à la 63e minute de cette rencontre. 1-0 pour les Lyonnais qui avaient ouvert le score à la 30e minute par Mariano Diaz. Les Lyonnais qui dominent mais qui n'arrivent pas à marquer ce second but qui permettrait d'avoir un petit peu plus de facilité dans cette rencontre. Ils restent sous la menace d'un retour des Amiennois, d'une égalisation toujours possible ici au Groupama Stadium. Donc domination de Lyon, mais toujours un seul petit but d'avance, ce but de Mariano Diaz à la 30e minute.
Merci Serge Pueyo. En Formule 1, le Grand Prix de Chine demain matin sera disputé à Shanghai. C'est l'Allemand Sébastien Vettel sur Ferrari qui partira en pole position. Pégri Broche, rebonsoir.
Rebonsoir Philippe.
Alors pour demain, la météo, ça ira mieux, mais pas pour tout le monde.
Eh bien oui, parce que si vous êtes sur le nord-ouest, il y a une nouvelle perturbation qui arrive demain, qui va encore donner pas mal de nuages, quelques averses, mais plus faibles en général. Et on retrouvera cette perturbation demain matin du Cotentin à la Vendée. Elle se décalera légèrement vers l'est au fil des heures et concernera l'axe de la Normandie aux Charentes. À l'arrière, un ciel de traîne, donc sur la Bretagne, avec des averses, mais aussi des éclaircies. Et à l'avant, un ciel plus lumineux et même ensoleillé l'après-midi des frontières du Nord aux Pyrénées. Pour les températures, elles seront à la hausse de 14 à 21 degrés en général jusqu'à 24 près de la Méditerranée. 14 à Brest, 16 à Rouen, 18 à Bordeaux et Lille, 19 à Paris, 21 degrés demain à Lyon et Toulouse et 24 à Marseille.
C'est pas si mal. Merci Peggy.